qui a eu lieu le 29 janvier. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission. Mais avant ça, on va passer à une petite pause musicale. À tout de suite.
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles perdent de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et c'est jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort.
Retrouvez le podcast du Café Féministe de Radio HDR sur Spotify et YouTube.
Retour sur notre émission Le Café Féministe. Donc aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Maria, de Marie-Vonne, de Séverine et de Dominique. Je vous propose alors de synthétiser le Café Féministe qui a eu lieu le 29 janvier dernier. Donc nous allons commencer par aborder le féminisme et l'anticapitalisme. Avant d'évoquer ce sujet, comment s'est passé le Café Féministe le 29 janvier ? Je crois savoir qu'il y avait beaucoup de monde.
La salle était comble. Il y a eu effectivement beaucoup de monde, si bien qu'on a voulu aborder les quatre thèmes. Ça a été très long, mais c'était nécessaire de se parler. Moi, j'ai trouvé ce café enthousiasmant, surtout que ce café se termine par un après-café dont j'aurai l'occasion de parler puisque nous avons le 8 mars, maintenant à préparer ensemble. Donc c'était une première échange public qui n'était pas à des fins terminales, mais qui était à des fins de pouvoir continuer à marcher ensemble, et justement dans toutes nos diversités, dans nos modes d'organisation différentes, etc. Ce café, c'était un petit caillou pour continuer dans ce combat, dont j'espère que maintenant les auditeurs et auditrices ont compris que c'était tirer la ficelle de changement profond des rapports entre nous. Parce que on peut avoir le droit de dire oui, maintenant je fais ce que je veux, je peux choisir ma maternité ou non, etc. Mais il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on a le droit que l'on se culpabilise pas, parce que la tradition veut, notamment quand on est une femme, c'est normal d'avoir des enfants. On pose toujours la question aux femmes, ça c'est ma fille aînée qui m'a dit ça un jour, ma fille aînée qui ne veut pas d'enfant, j'ai dit écoute, un enfant si je veux, quand je veux, je te l'ai jamais demandé. Et elle me dit, mais maman, on demande toujours aux gens pourquoi t'as pas d'enfant, on demande jamais aux gens pourquoi t'en as eu. Je me suis dit, mais elle a vachement raison. Et c'est vrai que dans les mentalités, ça ne change pas comme ça. Et c'est un combat de fond. De même que la domination des hommes par les femmes, qui était une domination domestique, et en plus le sceau sur la paternité, qui légitime tous les royaumes, toutes les passations de pouvoir, et puis un mâle, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'humanité dans ses grandes tendances, mais c'est comme ça que la prégnance de tout ce qui s'est passé nous est dans notre tête, et on raconte l'histoire avec ces grands hommes. Il suffit d'aller voir au Panthéon, il commence à y avoir quelques femmes. Mais c'est sur le modèle des grands hommes, les grandes femmes aussi. C'est-à-dire que c'est des modèles totalement dominants, et changer les mentalités, c'est notre combat profond. Et dans la domination des hommes sur les femmes qui minorisent leur travail, c'est la même domination qui s'est exportée avec le colonialisme. C'est la même domination, c'est-à-dire la discrimination du fait de ton sexe, du fait de ton origine sociale. Et on le voit bien encore aujourd'hui. Comment on accueille les gens qui, ne pouvant plus vivre dans leur pays par cet effondrement climatique, quelques-uns arrivent chez nous, pas tous, ils se déplacent de quelques centaines de mètres pour aller un peu plus loin chaque fois, mais sur la masse, on a quand même, j'aurais peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est les Nations Unies qui nous annonçaient 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Mais bien sûr, les terres qui vont être immergées sont des terres plutôt au sud du monde. Qu'est-ce qu'on fait des gens ? Le capitalisme aujourd'hui, le capitalisme a une réponse. C'est l'adaptation sélective. L'adaptation sélective, c'est qu'on fait plein de mines, plein de trucs, etc. pour extraire les métaux rares. Et il faut la guerre pour la faire. Hein ? On voit l'énergie de guerre qui est passée. Elle n'est pas dans les hôpitaux, elle n'est pas dans les services publics. Aujourd'hui, je parle de la France. Et le reste, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai entendu à FR3, il y a un an, ça m'a foudroyé ce truc. La journaliste, avec un air très souriant et tout, expliquant que dans 5 ans, l'endroit, l'Irak, la Mésopotamie, un des endroits culturels très importants de l'humanité, eh bien ne serait plus cultivable. Les vents de sable qui font aujourd'hui presque la moitié de l'année feront les 3/4 de l'année. On ne peut pas semer quand il y a des vents de sable. Alors, je me suis dit à moi-même, elle est en train de nous expliquer à la télé que l'Irak n'existera plus. Et ils sont où les Irakiens ? C'est ça l'adaptation sélective ? Ils ne vivront plus. Donc le féminisme, c'est les combats qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est le combat de fond pour une égalité réellement ressentie et une libération de nos esprits par ces contraintes morales qu'on nous impose entre le bien et le mal, mais c'est ceux qui ont intérêt à ce qu'on ait ces contraintes qui nous les imposent. Il faut qu'on trouve le chemin d'un monde commun, vivable et désirable. Et avec les bouleversements climatiques, il y a urgence. Le féminisme est une réponse urgente aujourd'hui. Tout petit mot, c'est le badge de Dominique sur son sur Salcone. Enfin, quand même, d'avoir traité de Salcone les femmes qui venaient protester contre ce DJ qui était invité par Madame Macron. Enfin, ce machin, ce je sais pas quoi.
Humoriste.
Ah, c'est un humoriste, oui, pardon, je me suis. Enfin, c'est quand même.
Bon. Un habitant.
Voilà, vous vous rendez compte ? Eh bien, nous sommes toutes des Salcones. Toutes des Salcones, c'est le mot d'ordre de la prochaine manifestation.
Nous allons passer à la deuxième idée, le deuxième sujet qui est la violence sexiste et sexuelle. Donc nous t'écoutons, Séverine.
Alors du coup, quand on avait eu nos petites rencontres pour organiser le café débat, on avait convenu de dégager cette thématique-là et que ça soit le collectif Nous Toutes qui introduise le débat. Donc quand j'ai préparé cette petite introduction, je me suis dit waouh, les violences sexistes et sexuelles, enfin la lutte en tout cas contre les violences sexistes et sexuelles des années 70 à aujourd'hui, vaste sujet. Qu'est-ce qui s'est passé, où on en est ? Et c'est vrai que ça m'a amené à la fois à me dire, bah, quand même, il y a des choses qui bougent, ouf! Et en même temps, bah, faut toujours lutter pour nos acquis parce qu'ils sont, comme on le disait tout à l'heure, sans cesse remis en question, sans cesse attaqués. Et il y a toujours de nouveaux sujets sur lesquels militer. Donc moi, j'ai mis quelques petits thèmes sur lesquels j'ai essayé de réfléchir à ce que c'était dans les années 70 comparé à aujourd'hui. Donc notamment, ce que moi j'ai appris, alors moi j'ai une quarantaine d'années du coup, donc le féminisme des années 70, je l'ai découvert par la suite, et mon engagement féministe est finalement assez récent, donc je suis encore dans la découverte de pas mal de choses. J'ai réalisé qu'en tout cas, les luttes avaient pour objectif de dire que l'intime est politique. C'est passé notamment par tout ce qu'on disait autour de la contraception, de l'IVG, du droit à disposer de son corps, etc. Il y avait également le fait de se dire, bah, ce qui se passe à la maison, c'est politique aussi. La répartition des tâches, bah, le fait que s'il y a des violences au sein du foyer, ben en fait, ça regarde pas uniquement le couple et c'est pas notre problème, on ferme la porte, ça nous concerne pas. Non, ça c'est important de dénoncer. Ça a été pris un petit peu plus en compte par la société. Il y a eu des structures qui ont été créées aussi pour permettre aux victimes de quitter le foyer. Mais toujours pareil, les moyens ont été insuffisants et les budgets des associations actuellement sont revus à la baisse. Donc on voit, voilà, à la fois il y a des progrès, mais il y a toujours du boulot. Le devoir conjugal vient seulement de disparaître comme même au sein du mariage, donc on se dit ouf, mais ah bon, c'était pas fait depuis des décennies déjà, quoi. Durant les luttes des années 70, il y avait aussi la lutte pour que le viol soit reconnu comme un crime, et ça a fini par l'être en 1980, donc c'est quand même une avancée majeure. même si, comme on disait tout à l'heure, la grande, mais alors très grande majorité des viols restent impunis, puisque déjà une minorité, seule 10% à peu près des victimes osent porter plainte, et moins de 10% de ces plaintes-là mènent à une condamnation. Donc le viol a fini par être reconnu comme un crime en 1980, et 35 ans plus tard, donc l'année dernière, en 2025, sa définition a été modifiée pour intégrer pleinement la notion de consentement. Donc ça, c'était aussi quelque chose, alors qu'il faisait pas forcément l'unanimité chez les militantes féministes, mais c'était quand même un sujet majeur, en tout cas cette question de consentement, à la fois au travers de la loi, mais aussi au travers de l'éducation et des rapports relationnels de façon plus globale. On a parlé aussi pas mal depuis tout à l'heure du mouvement MeToo, qui a permis d'imposer un peu plus la dénonciation des violences sexistes et sexuelles, d'imposer tout ça dans le débat public. Ça a amené à faire parler, ça a amené aussi à prendre conscience que c'était dans tous les milieux, que ça soit dans le milieu du cinéma, de la culture, mais aussi du sport, de la famille, à l'école, au travail. Comme je disais tout à l'heure, le procès Pellico a mis aussi en lumière que les violeurs, c'est un peu des monsieur tout le monde, qui font partie de notre entourage. Donc voilà, encore une fois, ça avance, mais il y a encore fort à faire. D'autre part, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il aura fallu plusieurs décennies de lutte pour que le terme féminicide s'impose. Donc en France, il s'est imposé dans le débat public, dans les médias, dans le vocabulaire médiatique, dans le langage courant. Le terme de féminicide qui tend à s'imposer, c'est un terme qui existe depuis très très longtemps, mais qui a eu des définitions un petit peu diverses et qui a disparu par moments. Les sociologues Jill Radford et Diane Russell ont contribué à l'inscrire dans une pensée politique féministe et à populariser son utilisation dans les années 80. Et en France, ça s'est imposé seulement récemment. Mais c'est un terme qui n'existe pas pénalement. Il faut quand même en avoir conscience. Et alors l'inter-orga féminicide, dont fait partie nous toutes, définit féminicide comme un meurtre ou un suicide forcé d'une femme en raison de son genre, et ce, quel que soit son âge ou les circonstances. Les féminicides s'inscrivent dans un contexte de violence patriarcale systémique et ou au croisement d'autres systèmes d'oppression. Et du coup, il faut savoir que ces décomptes de féminicide ont d'abord concerné uniquement les femmes victimes de meurtre par leur conjoint ou ex-conjoint, et maintenant ça s'étend un peu plus largement à l'ensemble des femmes, et que ce décompte, il est établi uniquement par des organismes militants et non pas par l'État. Dans la continuité, il y a aussi la notion de culture du viol qui a émergé. Donc c'est né aux États-Unis par la notion de rap culture, donc qui avait pour but d'éliminer vraiment le viol, et qui pensait que ce but ne pouvait être atteint sans une transformation révolutionnaire de la société. Donc, culture du viol, ça en est la traduction. Et pareil, en France, ça a mis du temps avant d'arriver. On met toujours un petit peu plus de temps. Et ça s'est imposé notamment grâce au livre Culture du viol à la française de Catherine Ray-Robert en 2019. Tout ça dans un contexte post-MeToo aussi. Donc ce concept, il amène à penser les violences en termes culturels et non plus uniquement en termes individuels. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très différent. Il vise à déconstruire vraiment le mythe du viol, et il définit les violences sexistes et sexuelles comme un continuum de violences. C'est vraiment casser le mythe qui est présent quand même dans les imaginaires collectifs et avec lequel on grandit, on se construit, où ça serait le viol, il arrive uniquement dans un parking souterrain la nuit, c'est quelqu'un de très méchant et très marginal de la société qui attaque une pauvre femme sans défense. Finalement, on a mis en évidence que dans 9 cas sur 10, la victime connaît son agresseur. Dans 99% des cas, l'auteur est un homme. Et bien souvent, c'est un homme en quel la victime pensait pouvoir avoir confiance.
Je te coupe, il y avait aussi pendant un temps, pas mal dans la culture du viol, les filles qui se retrouvaient prises en otage dans des caves entourées de personnes, enfin plusieurs hommes, ouais. Les tournantes. Ça fait beaucoup de bruit parce que pendant une période, c'était presque une mode que ces femmes se retrouvaient victimes dans les caves. C'est comme ça qu'on appelait les tournantes dans les caves, tout ça.
Ouais. Alors, il faut rappeler quand même, quel que soit le contexte, un viol est un crime.
Ouais, tout à fait.
Mais après, c'est vrai que cette idée de culture du viol qui a été mise en évidence, c'est vraiment l'idée que les violences, c'est un continuum. Et on peut prendre vraiment l'image d'une pyramide et de se dire qu'au bas de la pyramide, il y a toutes les petites blagues sexistes qui vont avoir lieu, qu'on va un peu banaliser, etc. Et c'est parce qu'on se permet ça qu'on va se permettre peut-être l'étape suivante, ça pourrait être des sifflements, du harcèlement de rue, diffusion de photos intimes. Et ça, une fois que c'est un petit peu... possible finalement, c'est aussi ce qui fait que dans la continuité, il y a des agressions plus explicites. Des personnes vont s'autoriser à commettre des agressions plus explicites, telles que des insultes, des menaces, des violences physiques ou sexuelles. Et la manifestation la plus extrême de cette violence, qui serait vraiment au sommet de la pyramide, c'est elle s'exprime par des crimes que sont les viols et les féminicides. Et on voit bien que dans certains contextes, ces viols peuvent même être valorisés. Voilà, on a vu il y a des vidéos qui ont tourné de policiers qui violent une femme en garde à vue. Il y a pu avoir des gars qui se vantaient de tournantes, enfin des choses comme ça. Donc non seulement c'est rendu possible, mais en plus ça peut être valorisé par certains auteurs, quoi. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire que il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Il n'y a pas d'un côté des personnes qui seraient exposées, de notre côté des personnes qui en seraient complètement protégées. Tout ça, c'est bien plus nuancé, bien plus complexe que ça, et que c'est présent vraiment, encore une fois, dans toutes les sphères de notre vie, vraiment au travers des publicités qu'on va voir, au travers de ce qu'on va véhiculer au sein de notre foyer, de ce qui va se dire à l'école,
dans
d'où l'importance
comptines.
Vraiment
dans les livres,
l'éducation en relation, dans les livres, enfin, la Belle au bois dormant, ça paraît hallucinant finalement quand on y réfléchit, c'est une métaphore du viol complètement. Donc tout ça finalement, d'en prendre conscience, ça permet de critiquer tout ça et ça permet d'ouvrir le débat aussi, d'y réfléchir, d'en discuter et de pouvoir faire autrement. De pas banaliser certains actes qui pourraient être peut-être anodins pour certains, parce qu'on a intériorisé beaucoup de petites violences du quotidien. Ne pas banaliser tout ça, c'est pas seulement être une chieuse, c'est quand même se dire en fait c'est tout ce terreau là qui rend possible d'autres agressions plus visibles.
Et puis, encore une fois, les hommes de maintenant, qui sont souvent en position d'agresseur, hein, parce qu'il faut l'admettre que ce sont majoritairement des hommes, je crois plus de 90%. Donc, ces hommes ont été des enfants et ont dû être éduqués d'une certaine manière. Donc, nos petits hommes qu'on élève aujourd'hui seront les hommes de demain.
Complètement. Voilà. Complètement. Et d'ailleurs, on voit bien aussi, quand un viol est dénoncé, il y a aussi la difficulté à croire la victime. Souvent, sa parole, elle est remise en question. Il y a une inversion de la culpabilité qui va s'opérer. On va questionner la tenue de la victime, son comportement, etc. Et déculpabiliser l'auteur ou culpabiliser la victime de dire « mais tu te rends compte, tu vas briser sa carrière » ou « il avait une famille » ou etc. Et en fait, il est temps d'en finir avec ça. C'est à l'auteur de se remettre en question et pas à la victime. Et dans la continuité de tout ça, quand je parlais de la tenue, il y a plein de débats qui sont en cours aussi sur la tenue des filles. Il y a des règlements intérieurs des fois dans des écoles primaires qui interdisent le débardeur aux petites filles. Ça paraît fou. A contrario, si elles arrivent au collège avec une robe trop longue, on va aussi critiquer. Enfin, il y a vraiment, tout peut être discuté et en fait, on les laisse jamais tranquilles, quoi. Il y a un moment.
Ouais, le corps des femmes est un spectacle.
Lâchez-nous les ovaires. Lâchez-nous les ovaires.
Il y a aussi les conditions de vie. Il y a des villes un peu reculées qui pratiquent des vies un peu plus traditionnelles, j'ai envie de dire, notamment dans le milieu rural.
C'est vrai que le milieu rural, finalement, ça représente quand même beaucoup d'habitants, mais on en parle assez peu de leurs réalités diverses d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est pas uniquement au niveau des VSS. Près de la moitié des féminicides ont lieu en milieu rural, tandis que seul un tiers des habitants y vit, habitants-habitantes. Donc ça pose quand même un petit peu question de se dire qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui explique tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être le fait de l'éloignement géographique, peut-être moins d'accès aux services publics, aux médecins, une plus grande dépendance économique peut-être, pour les déplacements aussi. C'est quand même plus facile d'isoler une victime quand on est éloigné géographiquement aussi. Le fait que dans les villages, tout le monde se connaît aussi, c'est moins évident de dénoncer des choses et d'être pris au sérieux. On a quand même un espèce de contrôle social qui s'opère quand tout le monde se connaît. Ça fait partie des sujets dont on se dit, nous à nous toutes, qu'il est important de prendre en considération.
Sur la question de la culture du viol, ça m'a rappelé une anecdote que j'ai vécue. C'est dans les années 90 à peu près. J'étais à un spectacle d'été, on est dehors, c'était des tableaux sur la vie paysanne il y a de nombreuses années. Enfin, tout ça était fort joyeux. Et à un moment, l'un des tableaux, on voyait un garçon de ferme, mais quand même adulte, qui emmenait dans la grange une petite fille, dont on s'est douté bien de ce qui allait se passer, et tout le monde a rigolé. J'ai dit, mais on est où? C'est-à-dire que là, c'est ça aussi la culture du viol, c'est-à-dire qu'elles s'en remettent quand même, hein, on ne va pas en faire un plat. Et il n'y a pas mort d'homme, ni de femme, mais si, parfois. Parfois, il y a mort de femme, parce que ça conduit parfois au suicide aussi, hein, ces vies cassées. J'avoue que j'ai été assez interloquée, sauf que j'étais sur mon banc avec le public. Je n'ai pas trop su ni fait ni rien dit, mais j'étais interloquée. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de très drôle dans ce tableau.
Je voulais juste rajouter un petit mot, parce que en fait, Séverine a été très complète sur la description de ce thème-là, et la question des violences sexistes et sexuelles. C'est très illustratif, tout ce qu'a dit Séverine. Séverine, du fait que combien en France, tout du moins, pas que, mais en France notamment, nous sommes vraiment très 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 loin du compte de tout ce qu'il faudrait faire pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, pour lutter contre les féminicides et la culture du viol. Parce que tout ce que Séverine a décrit, tout ça est très très documenté par des chercheurs en sciences humaines, notamment des sociologues, etc. Mais les pouvoirs publics en France ont, alors que cette cause-là était soi-disant la cause du premier quinquennat du président Macron, alors que tout ça est très bien documenté, les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène-là ne sont pas là du tout. Et je ne parle pas que des moyens financiers, ça va de soi qu'il faut des choix budgétaires extrêmement précis pour lutter contre ça. Et il faut des lois aussi très précises. Il y a eu quelques lois qui ont été votées, comme la loi sur le consentement, qui est un progrès, mais qui n'est pas suffisante. Il faut une loi beaucoup plus précise qui intègre, à l'image de ce qui existe en Espagne depuis 2004, la loi intégrale contre les violences de genre, c'est-à-dire qu'il faut une véritable formation des juges, des magistrats, des policiers, enfin tous ceux qui ont affaire à un moment donné à l'accueil des victimes, une formation pour accueillir cette parole véritablement et de façon à pouvoir ouvrir des véritables procédures. Et il faut une loi qui intègre donc ça, qui intègre la prévention, qui intègre la question de l'éducation dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'on est très très loin du compte de ce qu'il faudrait faire par rapport à tout ce que a décrit très finement Séverine tout à l'heure sur les violences sexistes et sexuelles.
Mais au-delà de la loi quand même, quand on entend par exemple l'histoire, si je peux me permettre, de Dominique, c'est ancré dans des mentalités, c'est fou ça, comment faire changer, évoluer ces mentalités?
Et c'est bien pour ça que le planning familial se bat et depuis l'existence de la loi de 2001 pour les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et pour les plus grands sexuels, parce que ça ne peut passer que par un changement de l'éducation que reçoivent les garçons, également l'éducation que reçoivent les filles à qui on dit que de toute façon le masculin l'emporte sur le féminin, et que ça aussi c'est ancré dans les têtes des filles qu'on passe après les garçons. Il y a donc tout un cheminement à faire dans ce qu'on dit aux enfants, de ce qu'on fait avec les enfants, et qu'ils prennent conscience que une fille égale un garçon et un garçon égale une fille. Il n'y a pas d'autre solution. Et que dans les petites classes, par exemple, on travaille la question de « j'ai envie de te faire un bisou ». Si la personne, que ce soit un garçon ou une fille, refuse, on n'a pas à faire le bisou malgré tout. Voilà, c'est ça les séances d'éducation.
On ne force pas un enfant à dire bonjour avec la bise.
Alors ça passe par effectivement l'éducation que donnent les parents à leurs enfants, qui embrasse le monsieur qu'il n'a jamais vu, qu'il ne reverra jamais, et t'es obligé parce que t'es tout petit et que tu fais ce que je veux. Et ça peut être le démarrage effectivement de la soumission qu'on demande aux enfants, mais même entre enfants, il faut travailler la question tu peux faire un bisou que si la petite fille ou le petit garçon à qui tu demandes de faire un bisou est d'accord. Et donc tu demandes d'abord et après tu fais si il ou elle est d'accord. Et c'est ça qu'on travaille à la maternelle, par exemple, hein, les séances d'Evar, enfin d'éducation à la vie affective, c'est ces choses-là qu'on travaille. C'est pareil, tu touches le corps de l'autre que si l'autre est d'accord.
Mais moi, ça me paraît tellement évident. J'ai 4 enfants et mes enfants, s'ils se disputent et que l'un des 2 ou des 3 dit non, 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 je dis mais toujours, on ne force pas. Si elle ne veut pas, tu ne forces pas. Mais ça me paraît d'une évidence. Mais bon, apparemment...
Oui, mais c'est pas ce qui est... On pourrait parler des conceptions éducatives, mais là, alors là, je ne m'arrêterai pas. Mais oui, il faut... C'est aussi les adultes qui sont chargés de donner cette liberté-là aux enfants, de dire non.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les séances d'éducation à la vie, comment on dit,
affective, relationnelle et ou sexuelle.
Voilà, c'est
ça. Il n'y a pas de sexuelle dans les petites,
classes. Elles ont énormément du mal à être réellement mises en place au sein de l'éducation nationale, alors que c'est obligatoire, je crois. Hein, ça passe aussi.
C'est même complètement là, ce qui se passe actuellement est assez hallucinant. C'est-à-dire, d'une part, ça n'a pas été mis en place systématiquement depuis 2001, et là, de plus en plus. Le planning n'a plus ses entrées pour faire les séances.
Séverine, aurais-tu quelque chose à rajouter sur les violences sexistes et sexuelles ?
Oui, je voulais aborder la notion d'intersectionnalité dans le féminisme, qui est une notion assez récente, elle aussi, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, elle est un petit peu plus ancienne. Et c'est une notion qui a animé aussi nos débats quand on s'est rencontrés. Donc c'est une notion qui met en lumière le fait qu'il y a des personnes qui subissent plusieurs domination simultanément, par exemple en raison de leur handicap, en raison de leur âge ou de leur origine sociale, de leurs croyances réelles ou supposées, de leur couleur de peau, de leur identité de genre, etc. Et finalement, on a compris que les différentes dominations ne s'additionnent pas uniquement, mais qu'elle se multiplie quelque part et qu'elle crée un nouveau type de domination. Donc ça avait vraiment été mis en évidence par les mouvements de black féminisme aux États-Unis. Et en France, on en prend un peu plus conscience.
Donc on va passer au troisième sujet. Je vous invite, Dominique, à m'en parler.
Oui, lors de cette soirée féministe, café féministe, j'ai été chargée de parler des mouvements anti-choix, qu'on dit aussi anti-genre et que moi j'appelle anti-tout. Parce que ce sont des mouvements, alors issus majoritairement des mouvements d'extrême droite, ainsi que de la mouvance catholique intégriste, qui sont contre tout ce que le planning et d'autres associations ou collectifs défendent. On a toujours connu, le planning a toujours connu depuis qu'il existe des attaques de la part des anti-IVG, parce que ça c'est leur premier combat. C'est passé par des attaques des locaux où se pratiquaient les IVG, même une fois que ça a été légal. Ils rentraient dans les salles à l'hôpital et souillaient le matériel, par exemple, pour que l'IVG ne puisse pas se faire. Aux États-Unis, il y a eu des médecins qui en sont morts d'avoir pratiqué des IVG. Et donc, ils sont en action depuis quand même assez longtemps et ils ont eu un temps de repos. Ils se sont moins fait présents sur la scène sociale et politique. Et puis, le mariage pour tous les a réveillés. Et depuis, ils sont arc-boutés sur un certain nombre de thèmes. Donc, l'IVG, ça, c'est sûr que c'est leur thème de prédilection. Il y a aussi la question de la transidentité, l'accès au droit des femmes à disposer de leur corps, de pouvoir se marier ou pas, avec qui elles le souhaitent. Comme je disais tout à l'heure, avoir des enfants ou pas, ils ont un projet de société qui est tout à fait clair, c'est-à-dire la civilisation occidentale, chrétienne, et tout le monde doit suivre ses principes. Il est clair que l'on sait maintenant que ces mouvements sont organisés en France, ont des connexions avec l'Europe et l'international. Ils ont énormément d'argent et ils sont très très organisés. Ils ont des programmes pour aboutir à leur fin. Le planning est attaqué régulièrement par ces mouvements locaux ou nationaux. Il arrive même qu'on pense qu'ils se déplacent de ville en ville selon les thèmes qui traversent l'actualité. On en a connu beaucoup au niveau de la constitutionnalisation de l'IVG. Ils viennent taguer nos locaux, détruire les serrures pour pas qu'on puisse entrer. Ils viennent aussi détruire nos boîtes aux lettres, comme ça apparemment on peut pas prendre contact avec nous. Ils font des raids numériques, hein, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tout à coup on est inondé de posts anti-IVG. Il y a aussi une autre technique qu'ils utilisent. Alors nous on n'a pas trop connu ça au planning, mais par exemple ici à Rouen, le centre IVG du centre-ville, ils prennent tous les rendez-vous d'une journée pour les consultations et faire les IVG. Et comme ça, les personnes qui en auraient besoin n'ont plus de place cette journée-là.